20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme tous les jours par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission consacrée alors à un personnage qui est très peu connu, voire pas connu du tout en France. En tout cas, pour l'instant, bien qu'il ait passé 9 ans à la prison de la santé dans les années 80. On va en reparler avec mes invités dans un petit temps. Son nom, Willem, mais on l'appelle Wim, ses amis en tout cas, Holleder, voilà. Autrement, dans le milieu, on l'appelle le Nez, parce que c'est quand même un des grands parrains d'Amsterdam qui doit gérer à peu près tout ce qui est prostitution, machine à sous, immobilier, dans pas mal de villes des Pays-Bas. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître donc dans les années 80 en enlevant le PDG et fondateur de la marque Heineken, pour lequel donc il a fait ses 9 ans de prison en France. On vous dira pourquoi dans un instant. Et puis là, pourquoi on parle de lui beaucoup en ce moment aux Pays-Bas, c'est vraiment le procès du siècle qui vient de commencer après cette triple dénonciation. Mais l'une de ses sœurs, qui s'appelle Astrid, a publié d'ailleurs un livre où elle explique sa démarche. Ce livre est un best-seller absolu aux Pays-Bas. Il a été vendu en quelques semaines. Il est paru, je crois, au début du mois de mars. Il a été vendu à plus de 500 000 exemplaires. C'est un petit peu comme si un livre en France en une semaine ou deux se vendait à 2 millions d'exemplaires. Donc c'est un phénomène absolument extraordinaire. Et Astrid Holleder a titré ce livre qui vient de paraître en France aux éditions du Sous-Sol, Judas. Ben oui, parce que elle a été le Judas de son frère qui lui faisait confiance. Et on va donc maintenant vous expliquer tout cela en détail avec mes invités que je vous présente tout de suite. Stéphane De Vries, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste correspondant d'ailleurs pour RTL aux Pays-Bas. Et Arnaud Gonzague, bonjour.
Bonsoir.
Journaliste à l'Obs. Alors moi j'ai lu avec passion il y a quelques jours, vous avez publié l'entretien que vous avez eu en Hollande, aux Pays-Bas, avec Astrid Holleder, la femme par qui le scandale est arrivé. Je vais juste vous demander en deux mots, comment vous avez trouvé cette femme. Elle sait maintenant qu'il y a un contrat sur sa tête, et vraisemblablement sur celle de sa sœur, et peut-être même celle de la femme de ce personnage.
C'est l'ex-compagne, oui, Sandra.
Et c'est quelqu'un qui est traqué ou...
Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas facile de rencontrer, effectivement. Je suis allé à Amsterdam la rencontrer dans un endroit qui a été tenu secret jusqu'à la dernière minute, pas très loin de chez son éditeur hollandais, dans un endroit, dans un coin protégé. Ouais. Elle a une protection, elle vit en permanence sous protection policière, une protection policière qu'on ne voit pas, ce qui est quand même toujours très étonnant.
Ouais. Elle
ne voit pas son gilet pare-balles.
Sous son corsage, vous le
non,
dites
je n'ai pas été regardé sous le corsage de Astrid Holleder, mais elle vit avec un gilet pare-balles et elle nous apprend dans son livre qu'elle a pris des cours de tir. Donc elle est très vraisemblablement armée, elle a une voiture sécurisée, voilà. Et surtout, ce qui est un peu étrange quand on va interviewer quelqu'un comme elle, c'est qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, puisqu'il n'existe pas de photo d'elle publique, évidemment parce qu'elle se cache, elle ne veut pas que les gens puissent la reconnaître dans la rue, dénoncer, etc., etc. Donc on ne sait pas à quoi elle ressemble. On a des photos d'elle qui sont des photos d'enfance. Et en plus, on n'a pas le droit d'enregistrer sa voix. On ne peut pas prendre de photos d'elle et on ne peut pas enregistrer sa voix. Donc, forcément, vous avez intérêt à bien prendre les notes.
Le livre est formidable. Hein, on va en reparler ensemble, vraiment, parce que, évidemment, elle parle de cette actualité, cette dénonciation de son frère. Mais tout ça, c'est le résultat d'une saga familiale. On verra tout à l'heure comment cette famille Holleder a pu produire à la fois ces deux femmes, les deux sœurs, dont le mari de l'une d'ailleurs a été éliminé alors que c'était un ami d'enfance de Wim Holleder par lui-même, et puis d'un autre côté cet homme qui est devenu donc vraiment une tête de la pègre. Et en plus, on parlera ensemble tout à l'heure de son amour pour le côté people des choses. Il a même fait participer à des émissions de télévision. Alors, cela étant dit, Stéphane De Vries, peut-être pouvez-vous nous donner quelques pistes là-dessus. D'abord, vous confirmait que les Hollandais ont admiré ce type, quoi. Parce que on le compare à une sorte de Mérine français ou...
Oui, admiré, je ne sais pas, mais il est incontestable qu'il y a une sorte de fascination pour cette figure, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il est très connu aux Pays-Bas. Bien sûr, vous avez mentionné tout à l'heure, tout a commencé avec l'enlèvement de Heineken, Freddy Heineken, le grand brasseur bien connu dans le monde entier. Et en fait, à cette époque-là, donc c'était en 83, moi j'étais très jeune, mais je m'en souviens très bien, parce qu'il n'y avait pas Internet, pas beaucoup de chaînes télé, et bien donc sûr. C'était la seule info pour pendant 3 semaines, tout le pays retenait son souffle pour savoir qu'est-ce qui s'était passé à Heineken. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a eu une vague de plusieurs enlèvements de grands industriels aux Pays-Bas. Donc c'était un peu à la mode entre la fin des années 70 et 80. Et donc là, Freddy Heineken, donc tous les jours, les infos, on n'avait pas encore les chaînes infos, mais même la chaîne publique interrompait ses émissions normales. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose qui était... Enfin, tout le monde regardait ça. Et puis... il a été finalement, on a payé une rançon. Heineken a été libéré par la police, et puis il y a eu une chasse à l'homme. Qui a fait enlever cette Freddy Heineken? Et finalement, on a retrouvé donc 2 personnes, dont Holleder. Et puis il est devenu, je dirais pas une star, mais en tout cas, il y a une fascination.
Oui, mais si on reste quelques instants sur l'enlèvement de Heineken, l'épilogue a eu lieu en France, rappelez-moi, parce que il a passé 9 ans à la prison de la santé.
En fait, 2 ans. Pour être exact.
Il a été condamné à 9 ans alors, et il a fait 2 ans.
Oui, tout à fait, c'est ça, en effet. En fait, c'était un peu bordélique, parce que ils sont venus en France, ils sont fuis dans un appartement dans le 8e arrondissement, puis ils ont été découverts par la police, et la police française les a arrêtés, mais ils ne savaient pas trop bien quoi en faire, parce qu'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas un crime en France. Ouais. Parce qu'à l'époque-là, il n'y avait pas de possibilité d'extradition, parce qu'il y avait un très vieux traité qui datait du fin du 19e siècle entre la France et les Pays-Bas. Et en fait, l'enlèvement n'était pas un crime selon la loi française. Donc, on ne pouvait pas...
Pas mal.
En tout cas, pour les extraditions. Donc, la police française ne savait pas trop quoi faire. Ils ont été enfermés pendant 2 ans sans procès à la santé. Ensuite, ils ont été transférés dans un hôtel à Beauvais. Ouais. Pas très idyllique. Ouais. Mais ensuite, il y a un chapitre plus idyllique. Ils ont été transférés en Guadeloupe. En fait, ils devaient aller à Saint-Martin. Ça, c'était le projet de la police française.
Parce que c'est l'île qui est partagée entre la Hollande et la France.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, l'aéroport est sur la partie néerlandaise. Donc, à l'époque, la police pensait, si on les envoie à Saint-Martin...
On les arrête à la descente de l'avion.
Exact. Ouais. Et en fait, la justice néerlandaise n'a pas voulu de ça. Donc, ils ont descendu en Guadeloupe. Là, ils sont restés quelques mois, je crois. Il y a eu des photos d'eux sur la plage avec des cartes de l'Amérique latine. Ils sont bronzés. Et donc, ça a fait un scandale, mais en même temps, c'était déjà un peu du cinéma, si vous voulez. Et donc ensuite, ils ont été quand même transférés, je crois, à Saint-Martin. Là, il y a eu, au bout d'un moment, des émeutes de la population. Et donc, l'île ne voulait plus d'eux, les Français. Donc, ils ont été finalement envoyés aux Pays-Bas. Et là, condamnés à 11 ans. Donc, ça a fait toute une histoire entre la France et les Pays-Bas.
Alors, c'est intéressant d'avoir rappelé ça au début de l'émission, parce que quand on dit qu'il y a eu une certaine admiration, fascination, on va dire, de l'opinion en Hollande, c'est parce que ce type n'était pas du tout repéré comme un tueur, mais comme quelqu'un qui était quand même assez original. Alors, on va faire une pause, et puis on va embrayer tout de suite avec vous, Arnaud Gonzague, faire un petit retour, un petit flashback sur l'histoire de cette famille, savoir qui est de son père, en plus, travaillait chez Heineken. Donc, il n'a pas eu trop d'imagination
tout
pour enlever le PDG.
En plus, c'était pas très original.
Voilà, exactement. Donc, on se retrouve dans un tout petit instant.
20h-21h,
l'heure du crime.
Jacques Pradel sur RTL. 20h-21h,
l'heure du crime.
Jacques Pradel sur RTL.
Les invités de l'heure du crime. J'ai un petit problème technique, c'est pas grave, on va résoudre tout ça, il faudrait me débrancher le casque, voilà, je dis ça à Marc Bisset au passage. Stéphane De Vries, donc, qui est journaliste correspondant pour RTL aux Pays-Bas, et qui travaille également pour le journal télévisé de RTL aux Pays-Bas, qui s'appelle RTL News, et puis Arnaud Gonzague, journaliste à l'Obs, qui suit, entre autres, quand vous ne vous occupez pas des tueurs ou des malfrats, vous suivez l'actualité des polars pour l'Obs. Et cela dit, vous avez plongé dans un polar magnifique, là, avec cette histoire-là.
Ah oui, là, j'ai été servi. Ah oui, là, comme on dit, la réalité dépasse la fiction. Et c'est tellement vrai, d'ailleurs, qu'une fois que l'histoire a été un peu connue aux États-Unis, l'éditeur hollandais de Astrid Holleder a reçu une trentaine de mails de producteurs américains qui voulaient absolument adapter l'histoire. Elle est démente. Et finalement, c'est Steven Spielberg, quand même, qui a été retenu. Voilà. Et l'histoire va exister sur Netflix. C'est lui qui va la produire pour Netflix.
Bon, ça va plaire à Wim Holleder, ça.
Ah, ça, je suis persuadé que ça lui, du fin fond de sa prison, ça lui fera sûrement très plaisir.
Forcément.
Sans doute.
Bon, alors, est-ce qu'on peut... On va remonter le temps, on reparlera du procès tout à l'heure, et puis du drame, en fait, parce que c'est quand même un drame, vous le confirmez, vit cette femme, parce que c'est pas facile, quoi, de dénoncer son frère. Elle l'a fait parce qu'elle a pensé que sa vie était en danger à un moment, qu'il menaçait la vie de gens
et
très proches
enfants,
d'elle. Quoi.
Et de ses enfants.
Ses enfants, sa mère aussi. Hein,
de sa mère, enfin, il faut savoir que Wim Holleder, souvent, quand on parle d'un parrain de la pègre, on a souvent cette image du parrain de Francis Ford Coppola. Donc quelqu'un qui peut assassiner de sang-froid, mais qui, avec sa famille, est extrêmement paternel, extrêmement protecteur. Wim Holleder, c'est pas du tout ça. Je pense que, d'ailleurs, il se rapproche probablement beaucoup plus de la réalité de ce qu'est la pègre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut menacer en permanence d'abattre, y compris des enfants. Il l'a fait plusieurs fois, y compris quand ce sont ses neveux. Il suffit qu'il veuille vous faire chanter ou il veuille obtenir quelque chose de vous, il est capable de mettre un pistolet sur la tempe. Pistolet sur la tempe d'un enfant de 7 ans.
Ouais, d'accord. Donc c'est
quelqu'un de très très dangereux. On se rapproche parfois plus d'Hannibal Lecter, le personnage du Silence des Agneaux, que d'un voyou.
Que de Meryl ou de Pablo Escobar, puisque vous faites la comparaison dans votre article. Oui.
Absolument.
La famille, le père s'appelle aussi Wim, Willem donc, c'est Willem senior, on va dire. Il paraît qu'on le surnommait dans son quartier le chauve fou.
Alors, dans sa famille, c'est ses enfants dans qui famille, le surnommaient le chauve fou. Oui. Alors oui, là aussi, effectivement, on sourit, mais c'est une histoire absolument atroce. C'est plus qu'un tyran domestique, c'est quelqu'un d'une violence absolue avec toute sa famille, qui bat sa femme comme plâtre, qui martyrise ses enfants, qui en permanence imagine des complots contre lui qui n'existent pas, qui évidemment menace en permanence tout le monde de coups, de blessures, de ça, et surtout qui ne supporte pas que les gens autour de lui soient heureux. Ouais. Mais ça va encore plus loin que ça. C'est quelqu'un d'un profond sadisme qui ne supporte pas que les gens puissent être épanouis. Ouais. Et Astrid Holleder raconte dans son livre cette histoire absolument étonnante, c'est que petite fille, en fait, elle avait tellement peur de son père qu'elle s'obligeait à penser en anglais parce qu'elle avait peur qu'il soit télépathe, qu'il imagine, qu'il comprenne ce qu'elle pensait de lui.
Et en même temps, elle vous dit que le soir, elle faisait une prière pour que son père meure, quoi.
Ah oui, et tous les enfants étaient absolument favorables à la mort.
Tous les enfants, y compris le garçon.
Y compris le garçon.
Parce qu'il y a deux sœurs et un garçon, hein, dans la.
Ah, il y a deux garçons, en fait.
Il y a deux garçons.
Il y a un dernier garçon qui s'appelle Gerhard, mais qu'on voit très peu. Et qui a tout de suite fui la famille et qui est très mineur dans le récit. Mais effectivement, il y a Sonia, donc la sœur d'Astrid, Astrid, qui est la dernière, et Wim. Ouais. Et Wim, on ne sait pas. C'est probablement un être qui n'a pas d'intériorité. C'est quelqu'un qui est opaque. C'est quelqu'un qui est aussi dangereux que son père, mais avec une intelligence machiavélique, en plus.
Ouais.
Donc, savoir si Wim a souffert de la violence de son père, évidemment qu'il en a souffert. Savoir ce qu'il aurait été sans cette violence native, la violence du berceau, depuis le berceau, c'est impossible à imaginer.
Oui, mais on a l'impression qu'il reproduit le schéma paternel, ce qui est assez classique d'ailleurs.
Et d'ailleurs, le père lui-même reproduisait un schéma paternel hyper violent.
Oui, j'ai l'impression aussi qu'il a voulu venger son père en quelque sorte, parce qu'il a enlevé quand même, kidnappé Freddy Heineken, et son père a été aussi le chauffeur de Freddy Heineken. Donc peut-être il y avait aussi de l'amour quand même. Enfin, je ne suis pas psychologue, mais c'est quand même étonnant qu'il a commis un acte si violent qu'il a préparé pendant 2 ans. Et donc, il y a absolument une relation complètement perturbé avec son père, oui.
Ouais, mais son père voulait qu'il soit policier, je crois, non ?
Ah, non, je ne crois pas, parce qu'ils n'aiment pas beaucoup la police dans la famille. Ah bon ?
J'ai raté peut-être dans son livre, comme ça. Moi,
c'est possible, mais j'ai
pensé parasite comme ça qui me passe par la tête.
Ce qu'il faut bien comprendre, par ailleurs, c'est que le père travaillait chez Heineken, et Heineken, c'était une entreprise extrêmement paternaliste. Donc, Freddy Heineken, ce n'était pas un patron lointain, c'était un monsieur à qui on disait bonjour tous les week-ends dans la rue. Wim a enlevé, non pas un ami de la famille, famille, ce serait beaucoup dire, mais quelqu'un qui était très connu. Il n'a pas, pas enlevé une personnalité médiatique, oui, il a enlevé quelqu'un qui était effectivement presque un membre de la famille.
Alors ça, on reparlera peut-être de cet enlèvement tout à l'heure, parce qu'il y a eu une rançon, là je parle sous le contrôle de Stéphane de Vries, considérable en florins à l'époque, hein, la monnaie des Pays-Bas.
35 millions de florins, c'est à peu près l'équivalent de 30 millions d'euros d'aujourd'hui. Ouais. Et une grande partie a été retrouvée par la police, mais 8 millions de florins, donc c'est à peu près 5 millions d'euros aujourd'hui.
Manquait à l'appel.
Oui. Et apparemment, cet argent était caché dans la boîte de Boulogne.
Sans blague.
Et en liquide, donc des billets, des petites coupures, parce qu'il fallait que ce ne soit pas
évidemment,
traçable. Et donc, cet argent a été, enfin, si c'est vrai, hein, mais selon des anciens collègues de Holleder, cet argent a été récupéré, et puis transporté aux Pays-Bas, échangé à l'époque des francs en florins, ou florins en francs, je ne sais pas exactement. Et cet argent-là a servi comme base pour l'empire d'immobilier.
Il a investi
absolument. Et en fait, c'est intéressant parce que comme ça, il est rentré dans le monde de l'immobilier d'Amsterdam. Et c'est là aussi, c'est une énorme réseau-milieu, en fait, où le sous-monde et le monde officiel se rencontrent. Et c'est là où a commencé vraiment son empire.
Alors, il y a des mauvaises langues qui disent, on va faire une pause là très rapidement, mais il y a des mauvaises langues qui disent que peut-être, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas non plus ce que dit Astrid dans son livre. Je rappelle, le titre, c'est Judas, donc il est disponible maintenant en France depuis quelques jours aux éditions du Sous-Sol. Il y a des gens qui disent qu'elle a entamé elle a fait cette dénonciation avec sa sœur en connivence pour récupérer les florins mystérieusement disparus à l'époque. Tout ça nous ramène donc au procès. On fait une pause. Ensuite, vous allez comprendre à travers ce que nous a confié par téléphone un journaliste qui s'appelle Jan Meus, qui est néerlandais, qui a écrit en 2015 une biographie sur Willem Holleder. Il va nous expliquer en quoi l'impact de ce procès est d'une ampleur absolument inconnue jusqu'à présent.
L'heure du crime.
Jacques Pradel.
Jusqu'à 21h sur RTL.
Judas, c'est le titre de ce livre d'Astrid Holleder qui paraît aux éditions du Sous-Sol en France, un immense succès des librairies aux États-Unis, on l'a dit, et mes invités, Arnaud Gonzague, qui est journaliste à l'Obs et qui a fait le voyage des Pays-Bas pour rencontrer cette femme qui se cache, qui ne veut pas qu'on prenne des photos d'elle, qui ne veut pas qu'on entende sa voix. Elle sait qu'elle a un contrat sur la tête d'une valeur de 35 000 euros lancé par son frère aîné, Judas. On a compris dans le titre que à la fois elle est déchirée par cette affaire, parce que elle aime son frère, mais elle aime pas du tout le tueur, quoi. Voilà, on peut dire ça.
Oui, et surtout elle s'identifie très fort à lui. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle le voit, elle se voit comme le fruit d'un même système, c'est-à-dire le fruit de la violence. Et elle dit que elle, parce qu'elle était une fille, elle est devenue avocate pénaliste, et qu'on ne pouvait pas investir une fille dans la violence, mais que si elle avait été un garçon, son destin aurait probablement été le même que celui de son frère.
Le même que celui de son frère, absolument. Et alors, en plus de ça, évidemment, elle connaît mieux que personne ce frère. Elle sait, par ses conversations, ses confidences du frère, qu'il a une angoisse dans la vie, c'est d'être condamné un jour à perpétuité. Et c'est peut-être elle, à cause de cette dénonciation, qui va lui offrir, entre guillemets, cette perpétuité tellement redoutée. Alors, il y a un procès qui a commencé le 5 février. On va revenir dans un instant sur le système qui n'est pas tout à fait le même aux Pays-Bas et en France avec Stéphane de Vries. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende ensemble cette petite minute de conversation téléphonique qu'on a eue, qui s'est tenue en anglais, qui était traduite, et vous allez reconnaître la voix d'Emilien Vinet, en fait, dans la traduction. Jan Meus, donc, qui parle en anglais, est un journaliste qui a écrit, comme je disais tout à l'heure, une biographie de Holleder. Et là, on l'a joint là-bas, aux Pays-Bas, pour lui demander comment on vivait actuellement, quoi, le public hollandais, cette affaire dans ce pays. Et selon lui, d'ailleurs, quelle pourrait être l'issue du procès? Écoutez sa réponse.
L'intérêt autour de ce procès est vraiment énorme. À chaque journée d'audience, on peut voir une foule immense qui se presse devant le tribunal. D'ailleurs, certains jours, il y avait des gens qui attendaient depuis 5 heures du matin devant la salle d'audience pour assister au procès. Ce qui fait aussi l'intérêt de ce procès, c'est que sa propre sœur, Astrid Olyder, est un témoin capital dans cette affaire. Elle a témoigné contre lui et surtout, elle a sorti un livre intitulé Judas qui s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires en moins de 2 ans. On peut vraiment dire qu'il y a une forte attente autour de ce procès. L'opinion publique, elle est partagée entre deux camps. On a d'un côté ceux qui estiment qu'il mérite d'être condamné, et on trouve aussi des gens qui pensent que ses sœurs lui ont tendu un piège pour pouvoir récupérer le reste de la rançon du kidnapping du propriétaire d'Heineken. Je pense qu'il sera compliqué pour Wim d'échapper à une condamnation. Nous verrons si les juges arrivent à rassembler assez de preuves. En tout cas, si cela débouche sur une condamnation, il y a de grandes chances que ce soit de la perpétuité et qu'il finisse réellement ses jours en prison.
Alors Stéphane De Vries, en fait, les gens sont tellement fascinés, comme vient de l'expliquer notre confrère, c'est aussi parce qu'il y a cette popularité sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, parce que j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est dans votre article, Arnaud Gonzague, que... les Vespas noirs, on les appelle des scooters Holleder, parce qu'on a vu des photos de lui se trimballer avec un scooter noir, quoi. Oui. C'est fou.
Oui, en fait, il vient du quartier de Jourdain, c'est à Amsterdam.
Quartier populaire, quoi.
Très populaire, ouais. Surtout avant la guerre, c'était le quartier des ouvriers, mais c'était aussi le quartier où il y a eu beaucoup d'artistes, de comédiens, de chanteurs, qui sont rentrés dans la culture populaire des Pays-Bas. Maintenant, c'est un quartier hyper cher et très bobo, mais lui, il est d'origine de ces quartiers-là. Il faut savoir que Amsterdam, c'est un peu comme New York. Les gens ont beaucoup de panache, beaucoup d'humour, beaucoup de reparties. Donc, aux Pays-Bas, quand tu viens d'Amsterdam, tu as déjà une sorte d'aura autour de toi, de quelqu'un qui est drôle ou en tout cas qui a de la panache, le courage. Et donc, lui, il est issu de cette culture. Donc, avec sa grande gueule, il plaît tout de suite au public. Il n'a pas d'humour, contrairement à son compagnon Cor van Hout.
Dont on va parler parce que c'est lui qui l'a tué.
Oui, tout à fait. Lui, il est très drôle, mais Holleder, apparemment, c'est sa sœur aussi qui le dit, qu'il n'a jamais été drôle dans sa vie, ce jour. Ouais. Et donc, mais c'est, en tout cas, cette personnalité un peu, c'est pas de l'arrogance, mais énorme confiance en soi. Mmh. Et donc, déjà dans les années 70, il fait partie des gangs à Amsterdam, il tabasse des squatteurs, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de squats à Amsterdam, payés par les promoteurs, en fait. Donc, déjà, il était dans ce milieu. Mmh. Et c'est ce côté-là un mauvais garçon, en fait. Donc, c'est ça qui plaît aux Néerlandais.
Les flics ici, en France, appellent ça souvent des beaux voyous.
C'est un peu ça.
Belle gueule, bagou.
Officiellement repenti. C'est-à-dire que quand il passe à la télévision en Hollande, pour l'enlèvement de Frédéric Henneken, il dit, passé, oh là là, j'étais jeune et j'ai fait... Voilà, c'était une erreur de jeunesse. C'est l'ancien voyou.
Parce qu'il a eu une rubrique dans un hebdomadaire très connu, des émissions télé, radio. Il y a même un rappeur qui a fait une chanson sur lui, qui est devenu un tube. Donc c'est un véritable phénomène public, même si les gens n'approuvent pas du tout ce qu'il a fait. Mais c'est quand même, il est fascinant.
Ouais. Alors, cela dit, maintenant je reviens à l'actualité, Arnaud Gonzague, et avec l'entretien que vous avez eu avec Astrid Holleder, c'est que toute la face noire, vraiment très noire, du personnage était inconnue du grand public. C'est elle qui va dire cet homme est un tueur. On peut parler un petit peu de Cor van Hout, je crois que c'était son nom, ce copain d'enfance avec qui il a enlevé le PDG d'Heineken, et qui, un jour, il a décidé de trucider, quoi.
Oui. Et qui, en plus d'être effectivement un ami d'enfance et un complice de nous, était marié avec sa sœur, la fameuse Sonia.
Pas Astrid, mais l'autre Sonia.
Pas Astrid, mais Sonia. Mmh. Il était le père
en présence il a été assassiné en présence d'un enfant, quoi.
De son fils ou de sa fille, je ne sais plus, effectivement. Effectivement, il est assassiné en 2003, après plusieurs années de tentatives qui ont échoué. Cor van Hout, il faut bien préciser, n'est pas un enfant de cœur. Mais effectivement... tel qu'il est décrit dans le livre d'Astrid, et tel qu'elle le décrit, c'était un voyou sympathique. Oui. Donc, c'est pas quelqu'un d'honnête, évidemment, mais c'est quelqu'un qui avait un code d'honneur, si on peut dire. Mais effectivement, ils s'étaient partagés tous les deux les fameux 8 millions de florins qui n'avaient pas été trouvés. Et très vraisemblablement, Wim voulait mettre la main sur ces 8 millions qui restaient, sur ces X millions, peut-être 4 millions qui restaient. On n'est pas sûr, mais il semblerait que ce soit ça. Et puis, au-delà de ça, Corvenhout lui faisait de l'ombre. Parce que ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont investi beaucoup dans l'immobilier, mais il faut savoir qu'à Amsterdam, la prostitution est légale. Donc, immobilier et prostitution, souvent, ça va ensemble. Les maisons de passe, c'était des gens qui possédaient des maisons de passe. Ou là, vous imaginez bien que les mœurs de business, je veux dire, sont extrêmement dures. Et il semblerait qu'il faisait de l'ombre au business de Wim. Et c'est après avoir assassiné en 2003 donc Corvenhout que là les deux sœurs comprennent
ça a été l'élément déclencheur. Attention, danger, si il a tué Cor, il peut un jour ou l'autre il va avoir envie peut-être de nous tuer. On va faire une pause et puis on va revenir cette fois-ci sur ce qui s'est enclenché justement après la mort de cet homme dans la tête d'Astrid d'abord qui a peut-être pensé aussi que au début elle voulait pas le faire tomber, elle voulait le tuer. Elle a pris des cours de tir et elle a acheté une arme. Vous allez nous raconter tout ça dans un petit instant.
20h-21h,
l'heure du crime.
Jacques Pradel sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Si vous avez prévu d'aller au ski en février ou en mars, vous pouvez d'ores et déjà vous remettre au vélo, au roller, ce que vous voulez.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Ne prenez pas ça à la légère, parce que la montagne en hiver, quand on n'a pas le droit d'aller batifoler dans la neige pour cause de blessure, c'est assez relou, comme dirait un jeune homme de ma connaissance à qui c'est déjà arrivé.
Merci beaucoup Michel Simès et à demain.
Retrouvez les conseils santé et bien-être de Michel Simès chaque matin à 8h15 sur RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous vous faisons certainement découvrir ce soir sur RTL dans cette émission, pour ceux qui n'ont pas lu l'article de Arnaud Gonzague dans l'Obs très récemment, nous vous faisons découvrir ce personnage incroyable, classé d'ailleurs, je crois, enfin il y a toujours des classements, des hit-parades, des choses comme ça, comme le criminel numéro 2 des Pays-Bas, vous confirmez Stéphane
Je pense
de
même
Vries
le numéro 1, dirais-je.
Oui,
absolument, c'est le plus grand criminel, parce que il faut savoir qu'il serait responsable d'au moins 25 liquidations.
C'est ça, oui, d'accord. Il ne fait pas dans le détail.
Non, voilà. Au moins. Les détails ne sont pas connus.
Il a commandité. C'est pas un tueur de sang-froid.
Il n'a jamais tué personne de ses mains, vraisemblablement.
Il semblerait que non.
Mais l'objet de ce procès en ce moment.
D'ailleurs, je pensais une chose, là, Arnaud Gonzague, il faut que vous racontiez ça maintenant, qu'on comprenne, pour comprendre encore mieux le personnage, et pour comprendre pourquoi, quand Astrid Oleder se dit à un moment, il va finir par nous tuer tous. C'est vraiment un pervers manipulateur et il aime faire peur, inquiéter, y compris ses proches. Et un jour, avec les deux sœurs, Astrid et Sonia, et lui, il se débrouille pour les emmener dans un cimetière.
Ah oui, c'est une scène prodigieuse du livre qu'on croirait tirée d'un film, effectivement. À ce moment-là, il en veut beaucoup à Sonia, à sa sœur, parce qu'il est convaincu, à tort, dit Astrid, qu'elle possède tout un tas d'argent sur lequel il aurait des droits, etc. etc. Donc il passe son temps à faire pression sur sa sœur. Et un jour, effectivement, il les convie pas, il leur ordonne d'aller dans un cimetière. On est en pleine journée, il n'y a personne, elles ne savent pas où elles sont. Et elles arrivent devant une sépulture. Et il leur dit une phrase comme « Bientôt, vous aurez besoin d'un cimetière, d'une tombe.
» Toutes les deux, vous avez besoin d'une tombe.
Et là, effectivement, elles ne savent pas si elles vont sortir vivantes ou pas, parce qu'il peut les assassiner de sang-froid, les faire assassiner de sang-froid, d'une minute à l'autre. Et finalement, oui, il voulait simplement les terroriser.
Alors, il faut dire qu'elle raconte ça minutieusement dans son livre « Judas », Astrid Oleder, quand elle décide de tuer cet homme, qui est son frère, mais quelque part, elle veut non pas avoir un feu vert de sa mère, mais elle pense aussi à sa mère, qui a été longtemps terrorisée par le père, qui a fini par par décédé.
Oui, le père est mort assez jeune.
Voilà, mais qui a été aussi sous la coupe de son fils.
Qui a dû avoir une relation amoureuse pendant des années, pendant des décennies, sans que son fils soit au courant.
Voilà parce que par jalousie, il aurait peut-être buté
Par paranoïa, par on ne sait pas quoi.
Donc, et cette femme, finalement, va lui faire comprendre que oui, c'est plus possible, quoi, qu'il est allé trop loin.
C'est un moment où, effectivement, Wim commence manifestement à vouloir s'en prendre aux enfants, notamment. Et le lecteur est absolument dans la tête d'Astrid à ce moment-là, et absolument d'accord avec Astrid. Elle dit, il faut que je le liquide, puisque de toute façon, personne n'arrivera à le liquider, il est trop fort. Ouais. Moi, il me fait relativement confiance. Il se trouve qu'elle possède une arme, elle se procure une arme, et elle dit, c'est trois fois rien, il ne faut pas que je le rate. Effectivement, sinon je suis très mal, mais c'est trois fois rien de l'avoir.
Et alors là, il se passe quelque chose dans sa vie, c'est le genre de choses que tout le monde peut comprendre. L'événement imprévu, comme ça, elle doit aller chez le kiné.
Elle va chez le kiné, et le kiné lui dit « Oh là là, vous êtes bien tendu, et moi franchement, je serais vous, je me mêlerais de ce qui me regarde, grosso modo. N'essayez pas
d'essayer de sauver
le monde. Voilà, n'essayez pas de sauver le monde, reconcentrez-vous sur vous-même, etc. » Elle se dit que c'est un signe du ciel, effectivement, et elle décide de ne pas tuer son frère. Ce que, dit-elle, elle me l'a dit, elle regrette profondément. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, elle le tuerait.
Elle le tuerait.
Parce qu'elle est, elle aussi, à perpétuité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Wim est donc enfermé dans la prison, une des prisons les plus sécurisées de Hollande. Ouais. Et pour autant, il est toujours aussi dangereux. Et peut-être même après sa mort, il restera dangereux. Parce qu'elle est convaincue qu'il a mis un contrat sur sa tête.
Un contrat, posthume. Stéphane De Vries.
Oui, en tout cas, sa mère, qui a aujourd'hui 82 ans, elle est toujours terrorisée par lui. Parce que la semaine dernière encore, elle a dit, elle a fait savoir qu'elle ne veut pas que son fils vienne à son enterrement. Parce qu'elle a peur qu'il assassine. Assassinera ses petits-enfants. Donc vous voyez, sa mère est toujours terrorisée, non seulement donc, pendant des longues années par son époux, mais aujourd'hui, à 82 ans, toujours par son fils.
Et là, il est dans une prison de haute sécurité aux Pays-Bas.
Oui.
Et on n'a pas dit, tout à l'heure, j'ai dit, vous nous expliquerez rapidement pourquoi ce système est très différent, le système judiciaire. Pourquoi le procès a commencé le 5 février, mais quand on pose la question, ce que nous avons fait, jusqu'à quand le verdict, en gros, on dit, oh là là, bien après l'été.
Oui, tout à fait. Déjà, il n'y a pas de juge d'instruction aux Pays-Bas, donc il y a beaucoup de place pour la défense, mais aussi pour les témoins.
Oui.
Donc là, en ce moment, il y a l'audition des témoins, il y a eu la sœur qui a été auditionnée la semaine dernière. Je crois qu'aujourd'hui, il y a l'autre sœur, Sonia, qui a témoigné.
Oui.
Et je crois que...
Mais ça se passe en public ou c'est...
Tout est en public, et on l'entendait tout à l'heure avec le confrère néerlandais, qu'il y a un énorme intérêt du public, il y a des gens qui dorment devant le tribunal, comme si c'était le nouvel iPhone. À 4h du matin, il y a déjà des gens. Et donc, le tribunal à Amsterdam a décidé de diffuser le procès dans d'autres tribunaux. Donc, les gens peuvent aller dans d'autres tribunaux et regarder à la télé, un grand écran, ce procès. Donc, il y a un énorme intérêt public,
Mais il y a des interruptions, alors il y a des...
Oui, c'est pas tous les jours.
C'est
quelques jours par semaine. Et puis, le dossier d'instruction fait plus de... 500 000 de pages. Donc, c'est un énorme procès. En fait, il faut savoir que, tout à l'heure, je disais qu'il aurait commandité 25 meurtres. Là, dans ce procès, il y en a 5 ou 6. Donc,
tout
à fait. Et en fait, ce procès fait partie d'un autre procès qui est encore beaucoup plus grand, qui lui, il s'appelle le procès du siècle aux Pays-Bas, qui date déjà, ça a commencé en 2007. À chaque fois, il y a des nouveaux développements. Donc, c'est extrêmement compliqué, ce qui explique qu'on a
Mais où il est impliqué également, lui?
On dirait oui, mais bon, aujourd'hui encore, il y a eu quelqu'un qui a été accusé par sa sœur Astrid d'avoir assassiné Korvenhout. Il a été libéré ce soir, donc apparemment, il y a des accusations qui tiennent pas la route, et puis il y a de nouveaux éléments à chaque fois qui sont introduits dans ce procès qui est vraiment énorme.
Je pense qu'on va faire une pause maintenant pour laisser vraiment du temps à Arnaud Gonzague pour nous parler de ce qui constitue le cœur de ce livre dont nous parlons depuis le début de l'émission, c'est-à-dire la stratégie qu'a employée Astrid, ses états d'âme bien sûr aussi, mais finalement elle s'est dit le plus simple serait de réunir des preuves pour faire tomber
le moins
mon
difficile,
frère.
Disons, le moins simple, parce que c'est pas simple. Avec
vous avez raison, c'est pas simple du tout. Je vais l'enregistrer clandestinement. Nous allons l'enregistrer clandestinement, elle et Sonia. Et là, je trouve que c'est ce qu'elle raconte est absolument époustouflant, puisqu'elles l'ont même enregistré au cours de parloirs dans la prison où il était détenu.
L'heure du crime sur RTL.
jusqu'à 21h sur RTL.
Jacques Pradel.
L'heure du crime.
Et l'invité de l'heure du crime, Stéphane De Vries, donc notre collègue journaliste correspondant pour RTL Pays-Bas, et Arnaud Gonzac, journaliste à l'Obs, qui a donc rencontré au cours d'un entretien fleuve, et quelle chance, hein, parce que cette femme, est quand même, elle voit pas grand monde en ce moment, quand même. Vous l'avez très longuement interviewé aux Pays-Bas, et d'ailleurs, on n'a pas parlé de cette femme, mais c'est vrai qu'elle, on se dit, elle doit être en loque, elle est déchirée, etc. Oui. Mais elle a apparemment une prestance incroyable.
Ah oui, oui, le mot est faible, oui. Pour être très clair, elle est extrêmement belle. Elle a une cinquantaine d'années. On a l'impression de tomber face à une actrice hollywoodienne, vous voyez, genre Michelle Pfeiffer. C'est quelqu'un qui est elle est très belle, elle est très grande, très mince, extrêmement souriante, très élégante. Ouais. Non, vraiment, elle est.
Et très déterminée, quoi, quand même, dans son combat.
Et on sent d'une intelligence absolue, redoutablement importante.
Alors, on va parler de. Je disais que c'est le cœur du livre, là, Judas. Elle se dit, il faut réunir des preuves, il faut faire tomber mon frère, et pour ça, le mieux c'est d'obtenir des aveux, et d'abord sur la mort de Cor Van Hout, donc le mari de sa sœur, le beau-frère du tueur ou du commanditaire quand même.
Absolument. Alors, on a du mal à comprendre comment elle peut penser ça. En fait, dans la psyché un peu paranoïde de Wim Oleder, elle occupe une place un peu à part, c'est qu'il lui fait relativement confiance. Le relativement est important, parce qu'il va quand même fouiller souvent dans ses affaires, c'est quand même quelqu'un qui ne fait confiance à personne par nature. Mais parmi toutes celles de sa famille, c'est celle à qui il fait le plus confiance.
Dont il se méfie le
moins. D'accord. Et en plus, elle lui sert parce qu'elle est avocate pénaliste. Donc c'est quelqu'un qui a des compétences juridiques, judiciaires extrêmement importantes, et ça, il sait très très bien que c'est important pour lui. Et effectivement, il a tendance à lui confier des choses, et elle se dit un jour, après un long cheminement intérieur, parce que c'est extrêmement effrayant de dénoncer quelqu'un comme Wim Oleder, elle se dit qu'il faudrait qu'elle enregistre ce qu'il lui dit. Alors, c'est pas facile d'enregistrer Wim, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler dans la pègre, et qui donc se méfie en permanence, et qui parle bas tout le temps. Et donc, on peut pas.
Il murmure même à l'oreille, parce qu'il pense qu'il peut y avoir des micros.
Il peut y avoir des micros à l'extérieur. Donc, il est jamais. Il c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. Il est tout le temps nomade. C'est pour ça que son scooter est important. Il passe sa vie sur un scooter d'un endroit à l'autre pour pas être jamais à un endroit. Il ne parle jamais à l'intérieur pour pas qu'il y ait des micros cachés quelque part. Évidemment, par téléphone, ils sont habitués tous à avoir des codes.
Mais des codes,
mère, comme les petits-enfants, tout le monde est absolument habitué aux codes, au cas où il y aurait une écoute policière. Et c'est quelqu'un qui mime beaucoup les choses. Et notamment, il mime avec ses deux doigts le pistolet. Et quand il le mime, en général, c'est pas pour de rire. C'est pas comme pour faire pour les enfants. C'est-à-dire que quand il dit, quand il parle de Sonia, la sœur, ou de Cor, et qu'il parle du pistolet, Astrid sait de quoi il parle. Simplement, ça ne constitue pas une preuve.
Bien sûr.
Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle raconte comment elle a commencé à mettre des micros partout sur elle.
À monter le micro sur ses bretelles de soutien-gorge pour que ce soit pas trop loin de la bouche. Quand il murmure, c'est incroyable, quoi.
Exactement.
Et même, l'angoisse à chaque fois d'être
attrapé par lui. Qu'est-ce qui se passerait, effectivement, c'est très compliqué.
Ouais. Et alors, elle va même aller. Alors, quand elle va le voir en prison, il ne sait pas qu'il est en prison. Il n'est pas en prison à cause d'elle.
On ne sait jamais ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il a un côté Hannibal Lecter aussi. Ouais.
Mais à un moment, ils vont le voir en parloir, donc c'est qu'il est incarcéré.
Là, il est incarcéré. Alors, je crois qu'il
c'est pour une autre affaire.
C'est pour une autre affaire, parce qu'il a, après ses 9 ans de prison.
Il a une affaire d'extorsion de fonds.
De chantage, en fait. Voilà, de chantage. Effectivement, c'est quelqu'un qui faisait chanter les gens et qui a pris 6 ans de prison de 2006 à 2012 pour ces actes-là. Et donc, elle est souvent allée le voir en prison.
Oui, mais elle prend sa décision en 2014, je crois.
2013. Elle commence à parler à la justice en 2013, après de très 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 longs un très long dilemme. Est-ce qu'elle va le dénoncer ou pas à la justice? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Parce qu'il faut savoir que Wim Oleder, évidemment, est très riche et qu'il paye des policiers ripoux qui lui révèlent la moindre chose.
Et
c'est aussi pour ça que souvent ceux qui ont essayé de le dénoncer ne sont jamais allés très loin dans les aveux parce qu'ils sont finis abattus.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Alors, elles vont, mais ça, détail terrible aussi, c'est qu'elle va être, elle va finir par dissimuler un magnétophone dans son intimité.
Je crois que ça marche pas très bien.
Elle va faire, elle raconte ça, elle fait tester le système par sa sœur, parce qu'elle démonte le magnétophone pour retirer toutes les parties métalliques, etc.
Oui.
Enfin, se mettant à la place de cette femme, on se dit, c'est pour ça que j'ai été très étonné par ce que vous dites sur son aspect, elle a force de caractère incroyable, quand
oui,
même.
Oui, oui, elle est très déterminée. Elle dit elle-même qu'elle appartient à une espèce de, on pourrait pas dire de race, vous voyez, mais une espèce d'engeance comme ça, de personnes qui sont un peu plus fortes que la moyenne. Ce qui n'est pas le cas de Sonia. Sonia ressemble beaucoup plus à sa mère, et c'est quelqu'un d'assez vulnérable.
Et Astrid... Sandra, alors, parce que elles ont fait une sorte de poule, parce qu'il y a donc Astrid et Sonia, les deux sœurs, et il y a Sandra. Qui est la femme de
l'ex-compagne, en fait.
L'ex-compagne, voilà.
Ils ne peuvent évidemment pas se marier. C'est quelqu'un qui a en permanence 4 ou 5 maîtresses, hein, Wim Wenders. C'est une vie quand même très spéciale. Ouais. Et effectivement, Sandra, dont elle se méfie beaucoup pendant des années, Sandra qui était l'ex-femme d'un truand de la pègre, elle aussi, hein, il va trouver des femmes souvent dans ce milieu-là, dont on suppose qu'il l'a fait abattre, lui aussi. Ouais. Je ne sais pas si elle le sait ou pas. Alors, c'est très intéressant, la manière dont il a procédé avec Sandra. Donc elle est tombée amoureuse de lui, que c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant, extrêmement magnétique, et il lui a absolument tout volé. Voilà, c'est-à-dire qu'elle était très riche parce qu'elle était la veuve d'un magnat de la pègre, et il lui a absolument tout volé. Et quand elle n'a plus été assez intéressante pour lui, évidemment, elle est partie. Voilà.
Alors, on arrive vraiment dans les dernières secondes, là, Stéphane de Vries, mais elle raconte aussi comment elle redoutait le jour où il allait comprendre et savoir qu'elle l'avait dénoncé, quand même.
Oui, tout à fait, parce que Willem a souvent dit « tu es que moi ». Donc peut-être c'est pour ça qu'elle comprend aussi bien. Oui. Et elle sait très bien qu'elle a trahi, mais elle n'avait pas d'autre choix que le trahir. Et elle sait aussi très bien ce qu'elle risque, parce qu'elle sait qu'elle va probablement perdre sa vie. Parce que même après sa mort, la mort de Willem, il aura toujours du pouvoir.
Oui, mais elle a appris officiellement par la justice néerlandaise qu'il avait réussi, dans sa prison de haute sécurité, à lancer un contrat contre elle.
Absolument,
parce que
quelqu'un a fait un grand scandale aux Pays-Bas, bien sûr, tout à fait. Ça montre à quel point Holleder a toujours du pouvoir, même dans la prison la plus sécurisée des Pays-Bas. Oui. Donc elle n'est jamais en sécurité.
Et c'est comme ça qu'on connaît le tarif.
Ouais, oui, 35 000 euros
par tête, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà, bon, ne cherchez pas la morale de l'histoire, il n'y en a pas, hein, carrément. Mais le livre est admirable, absolument, et je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission. Judas, c'est le livre signé donc de Astrid Holleder, qui vient de paraître aux éditions du Sous-Sol, et je vous en recommande vraiment la lecture, parce que c'est un livre absolument passionnant. L'émission est maintenant terminée, mais j'ai encore un petit mot à vous dire dans un instant.